L'été arrive, les amis, dans Historiquement Vôtre. On s'y prépare. Qu'est-ce qui est important, Olivier, l'été ? L'hydratation. L'hydratation à base de champagne rosé, avec beaucoup de modération quand même. D'où vient le champagne rosé ? C'est votre thème de chronique.
Alors, il faut avoir un petit peu de moyens quand même, parce que globalement, le champagne rosé coûte toujours un petit peu plus cher que le champagne
classique. Et encore plus cher que le champagne.
Oui, parce qu'il est plus compliqué à élaborer. Vous allez comprendre ça dans un instant. Mais s'il existe toujours un débat sur l'inventeur du champagne qu'on attribue à Dom Pérignon, mais malheureusement, au fur et à mesure qu'on creuse le sujet, on se rend compte que le rôle de Dom Pérignon a été beaucoup moins important que ce qu'on peut penser, et on ne peut pas le considérer vraiment comme l'inventeur absolu du champagne, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en revanche, l'invention du champagne rosé, elle est datée, elle est définie et elle est claire, et elle s'est déroulée en deux temps. Alors, premier temps, c'est 1764, et c'est la maison Ruinart qui, la première, a l'idée de faire ce qu'on appelle à l'époque, et ce qui existe toujours d'ailleurs, un champagne œil de perdrix. Et l'œil de perdrix, c'est une cuvée qui est élaborée à partir de champagne, entre autres pinot noir, et des pinots noirs qu'on a très légèrement laissé macérer avant de les transformer en champagne. Et la couleur vient des peaux de ce pinot noir, ces peaux qui contiennent des polyphénols et qui contiennent la couleur aussi. Et donc, en laissant macérer la peau avec le jus, il va y avoir un transfert de couleur. Et donc, le champagne va prendre une teinte plus soutenue. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'arrive pas bien à la maîtriser. C'est-à-dire que si on laisse les peaux en contact avec le jus trop longtemps, ça fait un champagne qui est trop coloré et qui va dégager des arômes d'amertume. Et si c'est pas assez, ça se voit pas. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Et en 1878, c'était une femme, Mademoiselle Ponsardin, que l'on doit l'idée assez géniale de faire ce qui reste une typicité absolument champenoise, c'est-à-dire de mélanger du vin blanc et du vin rouge pour faire du rosé. En moyenne, à peu près 15% de vin rouge. Et donc, la première bouteille de champagne Cliquot, parce qu'elle travaille à l'époque pour la maison Cliquot qui appartenait à son mari décédé, d'où veuve Cliquot Ponsardin, sort donc en 1818. Et c'est une révolution, puisque toutes les maisons vont ensuite s'inspirer de cette technique pour produire leur champagne rosé. Et il faut savoir que c'est une spécificité totalement champenoise. Dans aucune autre région française, le rosé n'est fait en assemblant du vin blanc et du vin rouge. C'est interdit en France. Et donc, il n'y a qu'en Champagne que pour faire du rosé, vous avez cette autorisation. Et ça a un avantage, c'est que ça permet de stabiliser la couleur. Parce que quand vous mettez du vin rosé dans du vin blanc, vous pouvez doser exactement la quantité que vous voulez, 5%, 10%, 15%, un petit peu plus. Et donc, travailler sur un échéancier, un nuancier de couleur. Et donc, ce nuancier, vous allez pouvoir doser exactement le vin et avoir des champagnes plus ou moins marqués, donc par les pinots, par les vins rouges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour faire du champagne rosé, il faut que le vin rouge provienne aussi de Champagne. On produit du vin rouge de Champagne. En grande majorité, il est donc utilisé pour ça. On peut trouver quelques bouteilles de vin rouge tranquille. C'est assez rare, de pinot noir, champenois.
Ça a un intérêt.
Mais il en existe. Ah ben, c'est assez bon, oui.
Ah ouais.
C'est assez bon, mais une grande partie de ces vins rouges sont utilisés pour la production du champagne rosé. C'est aujourd'hui autour de 20% de la production. Il y a une demande qui est assez croissante parce que c'est un côté assez fun, assez chic, et que le rosé, d'ailleurs, globalement, est plutôt une couleur dans le vin qui a le vent en poupe, et le champagne rosé n'y échappe pas.
Mais c'est quoi la différence de goût ? Parce que là, on a l'impression que c'est plutôt marketing ou couleur.
Non, il y a du vin, il y a 15% de vin rouge dedans, donc forcément, le vin rouge amène ses saveurs. Alors, c'est un pinot noir, donc c'est saveurs plutôt
cerise,
de fruits rouges, de cerises, de fraises, de framboises, et ça amène évidemment un peu plus de profondeur et de complexité à ces champagnes qui souvent d'ailleurs sont plus intéressants à table que purement à l'apéritif. Ces champagnes sont plutôt des champagnes de gastronomie qui vieillissent assez bien d'ailleurs aussi, puisque le vin rouge amène une certaine structure dans le vin qui permet de bon vieillissement. On a retrouvé il n'y a pas longtemps dans des caves des bouteilles de champagne rosé qui avaient plus de 100 ans et qui étaient encore tout à fait consommables. Donc c'est vraiment un segment aujourd'hui très intéressant. Voilà pour l'histoire de ce champagne rosé. Et
alors,
les amis, je propose maintenant de faire sauter les bouchons et de célébrer cette 200e émission comme il se doit.
C'est particulièrement cruel, puisque vous n'avez pas apporté une seule bouteille, vous avez mis un effet sonore.
Jamais rien, vous avez remarqué.
Non, mais les bouteilles sont au frein, ne vous inquiétez pas.
Mais pour après l'émission.
D'accord,
mais voilà,
après
parce
l'émission.
Que je voudrais pas que Stéphane ne puisse pas terminer sa chronique que tout le monde attend, évidemment.
Exactement, le mot de la fin. Alors déjà, on retrouve votre chronique, Olivier, sur Europe1.fr, et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1, bien sûr.